Parce que vous avez été enlevé, vous étiez en train de travailler là-bas, en pleine nuit, dans votre chambre d'hôtel.
Je pense que c'est exagéré, parce qu'il n'a jamais été otage. Le jour où quelqu'un sera otage, vivra une journée d'otage, comprendra ce que c'est. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que est-ce qu'il y a un pays au monde où je peux vous garantir 100% que vous ne serez pas enlevé? On va dans les pays asiatiques, partout dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr, zone blanche, zone rouge, zone orange, zone tout ce que vous voulez, est-ce qu'on est sûr qu'on reviendra sain et sauf? J'en suis pas sûr.
On se souvient de certains otages en Colombie.
Voilà, en Colombie.
Ingrid Bettencourt, par exemple.
Moi, je sais, en Thaïlande, il y en a Indonésie. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de pays dans le monde où personne ne peut vous garantir. Et moi, justement, je trouve que en parlant du Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay m'ont beaucoup aidé. Et c'est des gens qui sont compétents. Bon, ils peuvent pas tout faire non plus. Mais je voudrais rendre hommage à Macron parce que c'est quand même lui qui a donné l'ordre, qui a signé et qui a donné l'ordre de libérer ces gens-là, et c'est quand même le chef des armées, c'est lui, et c'était normal qu'ils les attendent quand ils vont être libérés.
Bien sûr. Philippe Folliot veut réagir.
Je voudrais juste dire un mot. Comparer ce qui s'était passé en Nouvelle-Calédonie avec la situation telle qu'elle est dans cette zone aujourd'hui n'est pas une bonne chose.
Mais c'est dit avec le cœur. C'est quelqu'un qui est un ancien militaire.
Non, on le comprend. Mais Jean-Marie Tjibaou aussi est celui qui a signé les accords de
Nouméa. Avec Lafleur.
Avec Jacques Lafleur et qui ont permis de retrouver une concorde civile et la paix en Nouvelle-Calédonie.
Et puis là-bas, c'est un territoire français.
C'est la France.
C'est pas une situation qui est une situation comparable entre une opération extérieure et une problématique. Donc, qui avait trait au territoire national. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que, bien entendu, certaines personnes, aujourd'hui, le président de la République, quoi qu'il fasse, de toute manière, le critiquerait.
Donc, mais par contre, il a rendu hommage au président de la République pour l'hommage qui a eu lieu aux Invalides ce matin.
Je pense que c'est un hommage mérité, mais comme... quand le président de la République est venu accueillir les otages, il l'a fait avec la sobriété qu'il fallait. Et c'est une tradition aujourd'hui que les présidents de la République accueillent les otages, quels qu'ils soient. Et s'il avait dérogé à cette tradition, les mêmes qui le critiquent parce qu'ils l'ont fait auraient trouvé une raison de
qu'il ne l'ait pas fait.
Non, mais surtout que c'est grâce à lui qu'ils ont été libérés.
Oui. Ensuite, l'autre point, c'est que c'est une responsabilité qui est une responsabilité très forte qui pèse sur notre président de la République, qui a une double fonction. Il est président de la République et chef des armées. Et donc, dans ce cadre-là, il a le pouvoir et la légitimité de pouvoir engager des actions et le feu donc pour pouvoir permettre, en l'occurrence, la libération d'otages. Ensuite, un autre point, c'est que c'est un élément fondamental et essentiel de la République. C'est que quand il y a un certain nombre de personnes qui sont en danger, des citoyens français qui sont en danger, eh bien, on engage tous les moyens qu'il faut pour pouvoir essayer de les sauver. C'est vrai dans ce cadre-là, mais jamais personne ne se pose la question quand des personnes font du ski hors piste l'hiver et que nous avons les personnels de la sécurité civile qui prennent un certain nombre de risques très importants, qui parfois ils laissent leur vie aussi. Personne ne se pose la question de dire, après tout, on va laisser les personnes, parce qu'elles sont skieurs hors piste, dans leur coin, et on va pas faire le maximum pour essayer de les aider et de les sauver. Et donc, voilà, c'est, somme toute, je crois, un élément de responsabilité de notre pays, et ça fait honneur à la France que de dire... au niveau de ces enfants, quels qu'ils soient, et quelles que soient les conditions, eh bien, on fait le maximum pour essayer de les sortir et de les sauver.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h45, je l'affirme, oui, je n'hésite pas, seul contre tous. Mali, la France est seule, les Européens s'en foutent. Vous voulez, comme Tony et Sébastien, réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous.
Retour des vraies voix, seul contre tous, et je l'affirme, Mali, la France est seule, les Européens s'en foutent. Avec nous, Philippe Folliot, député du Tarn, membre de la Commission de la Défense, Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe et spécialiste de l'Afrique, et Serge Lazarevitch, ancien otage d'ACMI, auteur du livre « D'un désert à l'autre », publié aux presses de la Cité. Justement, Jean-Claude Félix Tchikaya, que font ? Alors, les Européens ne sont pas franchement présents avec nous, sauf pour faire un hôpital, un avion de reconnaissance. Les pays africains, le G5 Sahel, qui est composé du Tchad, du Burkina Faso, du Niger, du Mali et de la Mauritanie, ils font quoi ?
Ben, comme je l'ai dit en ouverture d'émission, ils devaient être, au lieu d'être en retrait, pas parce qu'ils veulent être en retrait, mais ils devraient être devant. Et la France peut-être derrière et en soutien. Parce qu'on parle bien de leur souveraineté, de leur État, du continent africain. Donc l'Union africaine, mais aussi la CEDEAO, sur le plan régional, mais aussi les États, où malheureusement, si on les cite un par un, beaucoup, malheureusement, sont des États parfois quelque peu faillis sur le plan des missions régaliennes, ou en tout cas qui ont des insuffisances, dont les premières victimes sont les peuples et les régions. Et donc les ricochets en termes de sûreté et de sécurité, eh ben malheureusement, nous apparaissent beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus spectaculaire, de manière lugubre, nous sur le plan international, c'est-à-dire ce que vivent. Tout à l'heure, on parlait du banditisme, des informations qui s'achètent,
le côté mafieux
d'une économie qui n'est pas debout, d'un côté des États où les missions régaliennes malheureusement ne sont pas assez remplies, même s'il y a une montée en puissance de certains pays quand même dont on parle en Afrique, mais cette montée en puissance sur le plan sécuritaire, eh ben, elle n'est pas encore assez rapide par rapport aux anticipations des terroristes qui ont des stratégies multiples, y compris au sein des populations où ils trouvent parfois des complicités, où ils en achètent et autres. Donc c'est bien des pays qui ont besoin d'une cohésion nationale, d'une unité et surtout d'un développement économique pour que justement, pas seulement, eh ben, contrer et avoir un rapport franc, une philosophie franche liée à ces montées la religiosité qui malheureusement parfois flirte avec l'extrémisme, mais aussi les éléments géoethniques, les éléments raciaux qui sont peut-être un petit peu loin pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique. Monsieur Serge Lazarevitch,
ethnique,
connaît ethnique justement,
géoethnique.
On a vu ça il y a 25 ans au Rwanda, j'ai parlé entre les Tutsis, les Hutus.
Et mais aussi les velléités contre les chrétiens, hier encore. C'est sorti là aujourd'hui, mais hier encore, il y a eu de nombreuses victimes.
Dans un attentat lors d'une église dimanche dernier. Et on n'en a pas parlé.
Voilà. Alors, ça sort seulement aujourd'hui en France mais, et à l'international. Mais il faut savoir que voilà, le Burkina Faso, c'est aussi cela. Ils sont aux prises, comme la bonne région, à de multiples fronts auxquels ils doivent faire face. Et c'est vrai que seuls, ils ne pourront pas. À plusieurs en Afrique et avec l'aide de l'Europe et notamment la France, mais aussi l'ONU, les États-Unis étaient là aussi. Voilà, c'est une guerre internationale au Sahel qui est en train de se jouer aujourd'hui.
Serge Lazarevitch, vous connaissez un petit peu les Américains, vous avez beaucoup bourlingué, on va dire ça comme ça. Les Américains, ils font ce qu'il faut, ils pourraient faire plus. On a besoin d'eux là-bas.
Je pense pas qu'ils feront plus. Ils font ce qui est, là, je veux dire,
le minimum syndical.
L'intelligence. Sur place, mais mettre des militaires, je crois qu'ils ne mettront plus. De toute façon, je pense que l'Amérique ne mettra plus jamais un militaire. Quelque part, ils prendront des étrangers pour le faire pour eux.
Alors, Jean-Claude Fichigaya et Philippe Folliot.
Comme le déplacement, il y a une déportation du front libyen et autres syriens qui, maintenant, avec la stratégie d'ACMI, donc Al-Qaïda, Al-Shabaab, l'État islamique et autres, qui veulent que, malheureusement, l'Afrique soit aussi ce terrain terroriste, eh ben, peut-être que les États-Unis vont forcer être là plus qu'avec des drones et des moyens de renseignement assez puissants.
Si les Russes viennent...
Les Américains sont vraiment à nos côtés là-bas. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, le problème de fond, c'est qu'aux États-Unis, nous avons un président, Trump, pour ne pas le nommer, qui est totalement imprévisible par rapport à sa stratégie de politique étrangère, qui est isolationniste dans l'âme, avec tout ce que cela représente. Et alors que les États-Unis, depuis des décennies, se positionnaient, entre guillemets, comme le gendarme du monde, eh bien aujourd'hui, se replie sur
excusez-moi, on est toujours les gendarmes de l'Afrique, nous les Français.
Et avec un cadre qui fait que le centre de gravité des États-Unis se déplace de l'Atlantique vers le Pacifique et leur centre d'intérêt. Et aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est leur confrontation avec la Chine. Mais ceci étant dit, la France assume ses responsabilités. Moi, je crois qu'il y a...
Mais le gendarme de l'Afrique, c'est toujours vrai pour la France ?
Non, parce que la France n'intervient pas pour elle-même. La France intervient dans le cadre des résolutions des Nations Unies ou dans le cadre d'accords de défense. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il y a deux éléments qui sont à prendre en compte. Il y a les problématiques de court terme. La sécurité assurée dans ces pays-là et la capacité d'intervention. Aujourd'hui, la France... est le seul pays d'Europe et un des seuls pays au monde qui a une capacité de projection et avec une autonomie de décision et qui fait que nous pouvons intervenir sur ces zones-là. Les autres pays et les autres pays européens, ce n'est pas qu'ils ne le veulent pas pour certains d'entre eux, c'est qu'ils ne le peuvent pas.
Ils n'ont pas de moyens.
Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'expérience.
À commencer par l'Allemagne.
À commencer l'Allemagne, qui a un cadre juridique tel que l'intervention en OPEX ne peut plus. Et les Anglais, aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens, ils n'y arrivent plus. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons cette capacité, et c'est pour cela que nous l'utilisons pour nous-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe. Mais moi, je voudrais revenir sur un deuxième point qui me paraît essentiel. C'est que là, nous sommes sur le traitement des symptômes à court terme. Mais en tout état de cause, à un moment ou à un autre, il faudra s'occuper des causes du mal. Et les causes du mal, eh bien, on arrivera à les résoudre au travers de trois mots. Développement, éducation, culture. Et je crois que tant que nous n'aurons pas une réelle politique, et là, il faudra pas qu'elle, elle ne pourra pas être bien sûr que française, il faudra qu'elle soit européenne, que l'Europe s'engage pour assurer une stratégie de développement dans ces pays-là, pour faire de telle sorte qu'ensemble nous puissions avoir des bons protocoles pour lutter contre la corruption dans ces pays-là, pour faire de telle sorte que sur un plan économique, il puisse y avoir des perspectives pour la jeunesse de ces pays-là, que l'on puisse asseoir une réelle politique d'éducation. Je pense que chaque fois que nous aurons un certain nombre de jeunes Africains qui pourront être avoir accès à une meilleure éducation, ça sera une possibilité de recul contre le terrorisme. Et j'en termine par la culture, le fait, l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, le fait que on ne soit pas uniquement axé sur un certain nombre de phénomènes pour lesquels nous avons un certain nombre de personnes qui prennent en otage une religion et une qui j'allais dire pervertissent une religion pour défendre leurs intérêts qui sont des intérêts ou politiques ou religieux ou mafieux le plus souvent, eh bien nous n'en sortirons pas.
Vous avez dit un mot qui est la Chine. La Chine est de plus en plus présente en Afrique, Jean-Claude Félix Tshikaya, personne ne dira le contraire. Est-ce qu'on pourrait imaginer, pour assurer ses approvisionnements, qu'un jour les Chinois viennent mettre leur nez là-dedans?
La Chine met son nez à l'intérieur.
Mais pas militairement.
Mais ils mettent le nez militaire, mais malheureusement...
Ah, militairement maintenant?
Alors pour l'instant, ils n'ont pas l'investissement que la France a. Alors, la Chine n'est pas de retour en Afrique. Elle l'était déjà au temps du... Je ne vais pas dire soviétique, mais presque. Au temps du marxiste-léniniste. Donc c'est un retour. Mais l'Afrique n'a pas besoin seulement de développement, de culture et d'éducation, comme tous les êtres humains sur cette terre. Parce que même les pays qui vont bien sur le plan économique en Afrique et ailleurs, sont aux prises aussi avec ces idéologies.
Oui, mais c'est trop long.
Qu'est-ce qu'on fait
aujourd'hui?
Voilà, donc ce qu'il faut dire, c'est qu'il va falloir, pas un traitement long, mais...
Un traitement de cheval et à long terme.
Mais autrement, avec une autre stratégie, d'autres paradigmes.
Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tshikaya. Je pense qu'il va falloir refaire beaucoup d'émissions à ce sujet. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tshikaya, chercheur à l'IPSE. Philippe Folliot, député du Tarn, membre de la Commission de la Défense. Serge Lazarevic, ancien otage d'ACMI et auteur du livre D'un désert à l'autre, publié aux presses de la Cité. De suite, le Loft Music. Yvan Cujour se reçoit Anne Sylvestre.